Bienvenue sur la chaîne podcast de Ma Petite Forêt, un site d'éducation et de santé en forêt. Je suis Laura Nicolas et je vous souhaite la bienvenue.
Alors je suis très très heureuse aujourd'hui de recevoir sur Ma Petite Forêt la présence de Corinne Mazet. Corinne, merci pour votre temps aujourd'hui, le partage d'expériences que vous allez nous donner à voir aujourd'hui. Je ne vais pas vous présenter, mais je vais vous demander de vous présenter vous-même. La richesse en sera d'autant plus bénéfique pour les auditeurs de Ma Petite Forêt.
Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc oui, vous l'avez dit, Laura, je m'appelle Corinne Mazel. J'ai été pendant une quinzaine d'années conseillère pédagogique en EPS dans l'Est parisien et donc déjà très sensibilisée aux activités en extérieur, au travail sur le corps. Et c'était vraiment des points d'appui solides pour aborder la classe dehors que j'ai découverte très récemment. Alors, je suis aujourd'hui, j'ai pris une retraite un petit peu anticipée, mais je continue à travailler sur ce sujet en participant à des formations, en faisant des interventions et je m'occupe aussi d'un site qui s'appelle Enseigner dehors en ville. Toutefois, je tiens vraiment à préciser que je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas experte, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'aime bien défricher et je pense que la classe dehors en ville offre une multitude de pistes à défricher qui sont vraiment passionnantes et c'est un potentiel pédagogique énorme. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je continue à travailler avec des enseignants et bien d'anciens collègues.
Oui, moi j'aime bien votre approche parce que c'est une question qu'on pose souvent quand on démarre. Cette nature dans un univers urbain, où est-elle? Où on la trouve quand on enseigne en école urbaine?
Oui, c'est effectivement la première question qu'on se pose parce que la classe dehors, c'est pensé comme une connexion, reconnexion ou éducation à la nature. Mais on va voir que ça dépasse quand même beaucoup cet aspect-là. Et à cette question-là de la place de la nature en ville, il y a au moins deux réponses possibles. Alors, on peut envisager la nature comme la faune et la flore présentes en ville. Ça, c'est la première approche, je dirais. Dans ce cas-là, la nature, elle est peut-être déjà dans la cour de récréation. Il peut y avoir au moins un arbre. Mais aussi dans les squares, les parcs, les jardins partagés ou non partagés, dans les rues avec les arbres d'aliment, d'ornement, les pieds d'arbres qu'on peut ensemencer, les plantes en bac, les plantes en pot, les massifs, les murs et les toits végétalisés, les cours d'immeubles et puis toutes ces plantes qu'on dit adventistes, les plantes spontanées qui poussent partout et n'importe où et que personnellement j'aime énormément parce que c'est tout ce qui pousse dans les interstices est toujours intéressant. Donc c'est difficile de ne pas en oublier, hein. Et c'est dans ces lieux où il y a cette flore, il y a aussi une faune qui se développe. Alors après, c'est vrai qu'on ne va pas être dans un bain de nature. C'est plutôt une petite douche avec une douchette parfois, avec pas forcément la même quantité, pas la même qualité. Et encore que parler de qualité de nature, je trouve ça un petit peu risqué, mais on est dans un milieu urbain. Donc, si on veut trouver ce que j'appellerais faute de mieux des éléments de nature, on les trouve. Mais ce qui paraît vraiment intéressant quand on réfléchit à cette question de la nature, c'est que ça nous oblige à définir ou à redéfinir la nature elle-même, à réfléchir à son statut, à sa place, et puis à la nôtre en même temps, parce qu'on en fait quand même un tout petit peu partie de cette nature, et ça me paraît essentiel en tant qu'humain, humaine. On interroge cette notion pour ne pas la limiter seulement à une vision que je dirais entre guillemets naturaliste, c'est-à-dire faune et flore, il n'y a pas que ça, même si la faune et la flore sont pas absentes hein, des villes et puis peuvent être très intéressants objets d'études. Hein. Ce n'est pas question de les mettre de côté pour philosopher, même si on peut aussi le faire. Et puis la nature, on l'envisage comme un écosystème généralement, un écosystème dont on fait partie, mais on peut aussi envisager la ville comme un écosystème qui serait dans la nature. Et là, on est dans une toute autre démarche. Ça nous emmène très loin. Alors moi, je suis pas très avancée dans cette réflexion-là. Hein. Il y a des penseurs qui vont beaucoup plus loin. Mais c'est quand même des sentiers intellectuels que je trouve très, très intéressants.
Oui, l'opposition que vous soulevez entre entre d'un côté les espèces végétales et animales et de l'autre côté l'espèce humaine, elle renvoie un peu, j'aime bien les travaux d'Escola en anthropologie,
Eh ben oui.
par exemple.
Bien sûr.
Et cette opposition-là, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a nommé notre association Solonia Nature et Culture, même si c'est pas un « et ». C'est pas un « et » qui scinde comme le « ou » le ferait, mais c'est un « et » qui rassemble, puisqu'effectivement, en tant que mammifère animal, nous faisons partie de cet écosystème et les constructions humaines sont intéressantes aussi à envisager dans leur rapport aux autres constructions végétales et animales qu'on entend souvent comme naturelles. Donc ça, c'est quelque chose que l'univers urbain nous questionne peut-être plus que l'univers rural, qu'on fantasme un petit peu souvent comme étant le lieu où l'humain peut se plonger dans son altérité qui est la nature. Et l'école dehors, elle va brouiller un petit peu ces pistes-là en faisant feu de tout bois à partir de ce qu'on a sur place. Et cette considération-là, moi, elle m'amène à vous poser une deuxième question, puisqu'on parle de rural et d'urbain. C'est une immense question, hein, mais ce serait de vous demander votre avis sur les spécificités de l'enseignement dehors en ville par rapport à celui qu'il serait dans le monde rural. Et en fait, derrière cette question-là, il y a les représentations sur cette opposition rural-urbain et aussi des questions beaucoup plus pragmatiques sur les modalités logistiques spécifiques au contexte dehors. Dans la ville, je pense évidemment aux questions de sécurité, d'hygiène, de matériel, d'organisation, de transport. Quelles sont-elles ces modalités par rapport à ce qu'on pourrait voir en univers rural, par exemple ?
Alors, là, je vais commencer par la fin, par peut-être les modalités logistiques, mais je suis un petit peu embarrassée parce que je ne connais pas forcément toutes les modalités et toutes les injonctions, enfin le cadre exact des sorties dans le monde rural. Moi, je connais surtout celui de l'Académie de Paris où j'ai travaillé et où je continue encore à faire des choses. Mais il me semble que les modalités logistiques, à la base, elles sont les mêmes que pour toute sortie scolaire. C'est-à-dire que y a les éléments de base, hein, la liste des élèves, les numéros de téléphone, la trousse à pharmacie, l'eau et le masque, en ce moment, les masques, les gels hydroalcooliques, ça, c'est le matériel de base à emporter, et ça, je pense que c'est partout pareil. Mais après, ça va dépendre du lieu de la sortie, c'est-à-dire qu'en ville, on peut avoir la chance d'avoir le choix, enfin, mais on peut faire, je ne sais pas, si on va faire une sortie dans un grand parc, on va s'approcher à ce moment-là du type de classe dehors en milieu rural ou dans un jardin, ça va être un petit peu la même chose. Donc, ça peut être, c'est pour ça que l'aspect logistique est un petit peu difficile pour moi à aborder parce qu'il n'est pas si différencié que ça et la différenciation, elle peut être énorme d'une ville à l'autre parce qu'elle va dépendre, je ne sais pas si c'est la même chose sur l'Académie de Paris ou sur l'Académie de Versailles ou de Marseille, par exemple des Bouches-du-Rhône. Je sais qu'on est tributaire des conditions sanitaires, évidemment. On est tributaire du plan Vigipirate. Donc là, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire à Paris. C'est il faut vraiment pousser les académies soit à fixer un cadre, soit à laisser faire, ce qui n'est pas forcément leur genre. Mais je suis vraiment un petit peu embarrassée parce que même les...
Si je puis me permettre, votre embarras, je le trouve intéressant parce qu'il me fait penser à quelque chose. C'est que souvent, on va opposer, dans ma question même, hein, j'opposais rural et urbain parce que c'est souvent ce que les représentations qu'on en a. Et en fait, l'intérêt de votre embarras, c'est qu'il repositionne non pas cette opposition-là, mais la question du local, du micro-local. C'est-à-dire
absolument.
Que... C'est que selon le type de sortie, que je fasse par exemple une balade mathématique en ville, sur un quartier, ou alors que j'aille dans un parc, je pense par exemple au lac de Créteil, ou des parcs, si on va à Vincennes par exemple, ou autre, là on a des configurations extrêmement différentes, et tout dépend de ce qu'on veut en faire. Donc effectivement, une grande question comme celle que je vous posais, elle est insolvable parce qu'elle va dépendre du contexte très très local et donc derrière tout ça, rassurer les personnes qui veulent se lancer en disant il n'y a pas de bonne réponse, vous faites déjà comme vous faites pour les trois quarts de vos sorties de proximité en fonction du lieu où vous allez évoluer. Donc voilà, je repositionnais un peu cette, ma question trop globale finalement sur les modalités logistiques.
Absolument, oui. Je trouverais intéressant aussi de dégager des points communs à toutes ces situations de classe dehors. C'est pour, on pourrait les appeler les composantes ou les variables de la classe dehors. Et ils pourraient permettre plutôt de différencier les pratiques, d'en adapter les mises en œuvre, comme des fils sur lesquels on tire pour tisser quelque chose qui resterait dans l'idée de la classe dehors, tout en étant adapté à la spécificité du lieu dans lequel pardon, elle s'exerce. Alors, j'enverrai quatre de ces points, et il y en a peut-être d'autres, hein, mais la temporalité, c'est-à-dire la régularité et la durée, l'activité physique, le jeu libre et la reconnexion à la nature. Quand je dis l'activité physique, c'est la place du corps aussi, hein. Donc le premier, la temporalité, régularité, durée, il me semble qu'on peut dire que ce qui va d'abord différencier une sortie scolaire ordinaire d'une classe dehors, ça va être la régularité de la sortie, pendant laquelle il va s'agir par exemple de s'approprier son quartier de différentes manières, en fonction d'objectifs et d'activités qui peuvent évoluer ou varier selon ce qu'a pensé l'enseignant en amont. Il s'agit d'une forme d'appropriation d'un espace qui est connu des élèves en ville puisque c'est leur quartier, mais cette appropriation, elle est tout autre que celle qui existe déjà à travers la familiarité extrascolaire qu'ils ont avec ce lieu. Là, l'école va vers la culture de l'élève et la prend en compte, et les objets du quotidien deviennent des objets scolaires, et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et puis, sortir avec une classe en ville, c'est aussi intervenir dans l'espace social, qui a ses règles, donc il faut en tenir compte. Cet espace qui devient à la fois un lieu de pratique, d'interaction, on n'est pas tout seul, un objet d'apprentissage et une ressource pédagogique. Il y a aussi des inconvénients, le bruit des voitures qui empêche d'entendre la consigne, la difficulté de trouver un espace propice pour se regrouper, et puis même parfois la difficulté à circuler sur des trottoirs étroits ou encombrés. Et là, je rejoins le deuxième point, l'activité physique, parce que c'est pas rien d'apprendre à se déplacer dans la rue. C'est un vrai apprentissage qui n'est pas toujours explicité, hein. Il me semble que ça pourrait être creusé davantage. Comment on circule? Est-ce qu'on met les élèves systématiquement en rang par deux, par petits groupes, ou voilà, de façon autonome? C'est vraiment à réfléchir. Alors, évidemment, le troisième point, là, le jeu libre dans la rue, il n'est pas forcément de mise, hein. Mais je pense qu'on peut. Une part de liberté et d'autonomie peut être laissée aux élèves dans leur déplacement, justement, dans leur rythme, dans le cadre, bien sûr, d'une organisation qui tient compte de la sécurité de tous, hein. Donc, je parlais de la mise en rang ou non, des modalités de travail, est-ce qu'on est en groupe ou pas, est-ce que ces groupes sont accompagnés d'un adulte ou pas. Quel est le périmètre dans lequel l'activité peut être réalisée sans avoir à traverser de rue, etc. Et puis dernier point, en ce qui concerne la reconnexion à la nature, il est possible de sensibiliser les enfants dès le début et systématiquement à la présence de la flore et de la faune si on est dans cette perception, cette approche naturaliste dont on a parlé tout à l'heure. Et puis de les sensibiliser aussi à tout ce que, faute de mieux, j'appellerais des éléments de nature, je pense à l'eau par exemple, qui peuvent être présents dans l'espace investi. Donc voilà, il me semble que ces quatre points-là peuvent t'aider à travailler sur les différences plus que sur les oppositions entre la classe dehors en ville et classe dehors en milieu rural.
Et je rebondis sur ce que vous venez de dire entre opposition et point commun, en se demandant, c'est pas que je cherche les oppositions, pas du tout, mais je trouve que la comparaison est toujours importante, elle est fructueuse. L'opposition qu'on a tendance peut-être à mettre tout de suite entre le contexte urbain et le contexte rural, est-ce qu'elle se situerait pas plutôt Et j'en arrive finalement à une troisième question. Est-ce qu'elle se situerait pas plutôt au niveau du cycle au sein duquel sont scolarisés les enfants ou plus globalement pour les personnes qui ne sont pas dans l'éducation nationale par rapport à l'âge des enfants? Est-ce que les spécificités ne sont pas plutôt à chercher du côté du stade scolaire auquel sont les enfants, stade d'apprentissage, des cycles, etc., plutôt que sur le contexte? Qu'est-ce que vous auriez peut-être à nous dire sur les activités dehors en fonction du cycle? Qu'est-ce qu'on peut faire en maternelle et en élémentaire? Quelle pédagogie finalement? Parce qu'on est quand même en pédagogie par la nature, éducation par la nature, donc on en revient à cette pédagogie. Quelle pédagogie pour faire classe dehors, en ville de manière plus spécifique, mais classe dehors en général?
Je dirais que la classe dehors en ville, elle amplifie une différence dans les pratiques entre la maternelle et l'élémentaire, en lien avec la représentation qu'on a de l'enfant, enfin de la représentation et donc de l'enseignement en fonction de l'âge de l'enfant. Les plus petits seraient plus proches de la nature et les plus grands plus proches du social. Donc là, on a peut-être pas une dichotomie, mais quand même une vraie différence d'appréciation, on va dire. Il y a aussi le fait qu'il est plus facile de trouver des coins de nature adaptés aux petits-enfants, parce qu'à la hauteur d'un enfant de 4 ans, un endroit un peu en friche, un bosquet, on est tout de suite dans la jungle et c'est le terrain d'aventure. Pour les élèves de maternelle, je crois que la classe dehors peut ressembler en ville à sa forme, on va dire, classique, pour peu qu'il y ait un parc, un square ou tout autre espace adapté à proximité de l'école. Je connais ainsi il y a des classes de maternelle qui vont régulièrement dans un très grand parc à proximité de l'école. Et le périmètre d'activité est limité par un sentier, par un escalier, par une haie et par un petit taillis. Il y a une pelouse en pente douce et puis un bosquet. C'est un terrain d'aventure formidable pour ces enfants de 4 ans. Et je crois que ce serait la même chose dans un jardin en milieu rural ou dans une partie de forêt. Il n'y a pas là grande différence. Pour les élèves peu âgés, là, je connais des enseignants qui commencent très simplement en transposant à l'extérieur des activités qu'ils font dedans. Alors, ça peut commencer par la cour de récréation. C'est pas forcément l'objectif final de la classe dehors, mais ça me paraît quand même intéressant pour faire un premier pas, parce qu'il est aussi hyper important que l'enseignant se sente à l'aise. Donc, peut-être qu'on peut y aller à pas de fourmi, hein. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite des projets pharaoniques. Donc, la cour d'école. Et puis, je travaille avec un enseignant qui, lui, fait classe dehors dans le square, dans un square très classique avec des toboggans, avec des cages à poules, des balançoires, des choses comme ça. Et il a une classe de CE1 et il travaille sous forme d'atelier comme on en a en maternelle. Et alors il y a des ateliers en autonomie, un atelier dirigé, et il alterne ces ateliers avec des moments de jeu libre. Et là, ça fait plaisir aussi de retrouver le jeu libre, parce que la place du jeu libre en ville, on pourra aussi en discuter, hein, c'est pas forcément facile, facile. Et les enfants sont ravis, et lui aussi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de voir que non seulement ils sont heureux, mais ils sont, entre guillemets, un mot que j'aime pas trop, mais bon, j'ai été longtemps EPS, donc je peux l'employer, c'est performant. Et ça a été aussi le constat d'une enseignante que j'ai accompagnée dans une balade mathématique, par exemple, où la classe était là organisée en petits groupes accompagnés par des parents. Elle était avec les élèves les plus en difficulté. Alors là aussi, il s'agit d'un choix, hein. Est-ce qu'on garde déjà un groupe d'élèves en difficulté ou est-ce qu'on les dispatche, etc. Bon, ça, c'est les choix pédagogiques de l'enseignant. C'est à penser en amont. Et elle a été à la fois surprise et ravie de voir le travail réalisé par les enfants. Et là, on est aussi dans quelque chose de la classe dehors qui, pour moi, rejoint ce qu'on pourrait appeler une composante, mais peut-être que j'y reviendrai après, qui est l'activité physique, le mouvement. En tant qu'ancienne CPCEPS, je ne peux pas m'empêcher de penser que le mouvement est absolument nécessaire aux acquisitions, surtout scolaires, et que le dehors permet ça. Donc là, plutôt que d'être vraiment dans dans une approche, je veux dire, classique de cette classe dehors telle qu'on la pense habituellement, on en prend une partie et on la développe et on la met en œuvre. Vous avez parlé tout à l'heure de balades mathématiques, donc là, c'en est une, mais j'aime bien cette idée justement de balade, voire de parcours, parce que c'est lié au mouvement, à l'orientation, à la construction de repères qui vont permettre l'élaboration de savoir. Et là joue aussi l'alternance entre le dehors et le dedans, ça prend tout son sens. Après, les balades mathématiques, il peut y avoir d'autres balades thématiques. On peut très bien faire des balades sur des éléments de nature, par exemple sur les arbres. Qu'est-ce que ce serait une balade autour des arbres? Alors, on peut évidemment repérer ceux du quartier, en faire l'inventaire, apprendre à les reconnaître, la forme des feuilles, enfin, toutes ces choses-là. Ça peut être beaucoup plus sensoriel, on peut toucher les différentes écorces. On peut être aussi, on peut les observer, les dessiner, on peut s'intéresser à leur développement au rythme des saisons, leur rôle essentiel à notre survie, aux pratiques des plantations en milieu urbain, de leur entretien. Qu'est-ce que c'est que les lagages? Quels sont les risques pour les arbres? Enfin, c'est des vraies questions qu'on peut se poser. Puis faire la différence entre un arbre d'aliment, un arbre d'ornement et un arbre dans la forêt au sein de son écosystème. C'est peut-être pas non plus tout à fait la même chose. Et là, on déboucherait sur peut-être ce qui pourrait être un focus ou un point de capiton, c'est-à-dire si on fait une balade thématique autour des arbres avec plusieurs sorties sur ce thème, il pourrait y avoir à un moment une sortie dans un parc forestier ou une forêt plus éloignée de l'école où on verrait l'arbre autrement. Voilà, ça fait partie des thématiques abordées, mais il peut y en avoir pléthore, hein. Il peut y avoir si on pense à la biodiversité, on peut repérer dans la classe, puis dans la cour, puis dans le quartier. On parlait tout à l'heure des plantes adventices et spontanées, pourquoi elles poussent là et comment elles arrivent. Enfin, il y a vraiment une foule de pistes à explorer, quel qu'en soit le rapport avec la nature ou pas. Après, quelque chose peut-être de typiquement urbain, auquel j'ai pensé, c'est le street art. Je suis en train de réfléchir un petit peu à ça en ce moment. Il me semble que c'est quelque chose de nature urbaine, où là, le mot nature est pris dans tout à fait un autre sens. J'ai remarqué, parce qu'il y en a beaucoup dans le quartier où j'habite et dans celui où je travaillais, que souvent, il y a de nombreuses représentations d'éléments de nature. Des animaux, des plantes, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec les élèves.
C'est intéressant ce lien. Derrière vos recommandations, enfin vos idées, j'ai déjà vu deux choses qui vont alimenter notre dernière question. C'est deux choses. La première, c'est la diversité des possibilités amenées par l'univers du dehors. Ça, c'est la première chose que je vois qui peut encourager les gens qui veulent faire classe dehors, les enseignants ou autres, à se lancer au vu des possibilités qu'on peut pédagogiser finalement autour de l'univers naturel. Et la deuxième chose que j'ai remarquée, c'est la progression que vous recommandez. On ne va pas tout changer d'un coup, on peut y aller petit à petit. Et donc la question qui est ma dernière question qui va être derrière tout ça, c'est au-delà de ces deux conseils de progression et de faire feu de tout bois finalement, quels autres conseils vous pourriez donner à un enseignant ou à un parent qui veut commencer demain?
Le conseil de base, ce serait de s'appuyer sur la définition de la classe dehors, celle qu'en donne Christelle Ferjou, par exemple, où elle parle de sortie régulière, alors de mémoire, de sortie régulière dans un espace naturel ou culturel à proximité de l'école. Donc là, on a la régularité, la reconnexion enfin à la nature ou à la culture. Et moi, j'ajouterais l'alternance, l'articulation dehors-dedans. Avec cette idée de mouvement et de jeu libre qu'on a déjà évoqué, là, on a quelques points, quelques fils, disons, qu'on peut tirer pour faire classe dehors et qui vont aider à penser et à construire les activités, c'est-à-dire sortir du schéma j'emmène mes élèves dans la forêt et c'est jeu libre et j'observe et j'en tire justement des choses pour travailler parce que ça c'est pas accessible en ville. Donc il faut vraiment essayer de repenser cette idée de la classe dehors pour construire autre chose, mais qui a complètement à voir parce que les fils qui les tissent sont un peu les mêmes quand même. Et puis le dernier conseil que j'ai envie de donner, c'est balancez-vous, allez-y et observez. Allez-y avec votre petit carnet. Si les élèves sont grands, donnez-leur aussi un petit carnet. Ils vont apprendre à écrire, dessiner, faire des schémas, prendre des notes, ça dépend de leur âge. Et puis observer. Et là, le fruit des observations donne tellement matière après à travailler que c'est d'une richesse inouïe, quoi.
Oui, donc le mot d'ordre, ça va être lancez-vous. Et je terminerai en notant bien précieusement le nom du site de Corinne, donc Enseigner dehors en ville. N'hésitez surtout pas à aller y piocher les bonnes idées par rapport aux très riches articles et les partages d'activités qui y sont. Et à contacter, d'ailleurs, Corinne, n'hésitez pas à la contacter via son site. C'est quelqu'un qui pourra vous donner des conseils, que vous soyez un urbain, un périurbain ou avec des volontés de néo-ruralité peut-être un jour. Mais c'est un site extrêmement riche. Et Corinne, vraiment un très grand merci pour cette trop courte petite interview. Mais nous aurons certainement l'occasion de nous reparler et de faire écouter aux auditeurs nos échanges. Merci beaucoup, Corinne.
Merci à vous, Laura. C'était vraiment très intéressant de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. Au revoir, à
Au revoir.
Bientôt.
Au revoir.